Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. S'ouvrir sur le monde.
Vivre les différences.
Voir.
Sentir. Toucher. Entendre.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Rebecca est une photographe anglaise qui vit en France, mais c'est en Russie que je l'ai rencontrée. J'aime le voyage et j'aime tout particulièrement prendre le temps d'écouter les histoires des copains et copines voyageurs. Rencontre avec Rebecca un soir de pleine lune au bord de la Volga dans la ville d'Ouglitch. Je vais te laisser poser le décor, tiens, décris-moi un petit peu l'endroit, dis-moi où est-ce qu'on est. Bonjour à toi Rebecca.
Là, on est au bord de l'eau, il fait frais, le soleil s'est couché il y a une bonne heure. Et on est dans une toute petite ville en Russie, Ouglitch, au nord de Moscou, dans un parc, je pense, une espèce de parc au bord de l'eau, de la Volga en plus.
Et qu'est-ce que tu fais au bord de ce fleuve aujourd'hui?
Alors, je suis photographe. Je suis ici pour le festival Photo Parade de Ouglitch. Je crois que c'est le deuxième festival de photo en Russie. Et on m'a invitée ici en tant qu'intervenante pour faire une conférence et un workshop ici pour food photography, un photo de plat.
Bon, avant de m'intéresser un peu à toi en tant que photographe, je vais revenir un peu sur ton parcours, ton itinéraire personnel, parce qu'on l'entend quand tu parles, tu as un petit accent, donc j'en déduis que tu n'es pas française. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que tu parles cette langue?
Oui, voilà, je suis anglaise d'origine, je suis née dans le sud-est d'Angleterre, pas loin de Londres, Brighton. J'étais pas photographe au départ. J'ai commencé mes études en géographie à l'université, comme j'aimais beaucoup voyager. Je voyageais déjà. Et après, j'étais officier de communication, d'abord en Angleterre, et puis j'ai travaillé pour le ONG Save the Children. Donc je travaillais à Londres et je voyageais souvent.
À travers ton métier, hein. Donc Save the Children, là tu es dans les bureaux à Londres, mais tu pars régulièrement sur le terrain en mission.
Oui, voilà. Et donc, on travaille avec les organisations nationales. On discutait le planning des organisations. C'était cérébral. C'était pas du tout les projets sur le terrain. Et finalement, quand j'ai décidé d'arrêter ce travail-là, je ne savais pas ce que j'allais faire. Donc, j'ai démissionné sans savoir. J'avais 3 mois à faire à Londres dans le bureau. Au milieu de cette période, il y avait un type de Save the Children Suède qui est venu et lui, il était au Bangladesh. Donc, il était en mission au Bangladesh. Et il m'a dit, lors d'un café, il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Et je dis, j'en sais rien, vraiment aucune idée. Il m'a dit, tiens, viens au Bangladesh, viens à Dhaka quelque temps. En tant que bénévole, hein, mais de voir un peu le projet sur place.
Pour l'ONG Save the Children aussi, ou c'était pour une autre ONG là?
Oui, là c'était pour, parce que je travaille quand même pour le bureau central pour toutes les organisations nationales. Mais là c'était une de ces organisations nationales en Suède qui avait, eux, des bureaux dans les pays en voie de développement. C'est compliqué, hein, la structure de Save the Children. Mais après, je me suis dit, comme je voulais peut-être continuer ma carrière dans le monde de peut-être les Nations Unies, la Banque mondiale, ça me tentait bien. Mais je me suis dit, avant de continuer, je veux vraiment aller peut-être sur le terrain, voir comment ça se passe, les projets. Alors, je suis allée à Dhaka quelques temps. Je pense que ça a dû faire un an. Et pendant ce temps-là, j'avais toujours fait la photo pour moi, mais voilà, j'avais mon appareil, je m'amusais, mais toute seule à faire des photos pour moi. Mais sur le terrain, au Bangladesh, je commençais à faire des photos. Et le bureau en Suède, quelqu'un a dû faire voir des photos que j'avais prises. Et après, ils m'ont proposé un travail de continuer, mais ils m'ont créé un poste pour voyager dans la région de l'Asie centrale et sud-est et faire des photos et aussi faire des entretiens avec voilà, les gens qui bénéficiaient des projets Save the Children.
Et donc là, quand on t'a envoyé faire un tour d'Asie pour faire des images, c'était encore du bénévolat ou est-ce que tu as réussi à décrocher un contrat ?
Non, là j'avais décroché un contrat. C'était un contrat local, c'était pas payé, rémunéré au même niveau que les postes en Europe, mais quand même, je pouvais vivre de ça là-bas.
Alors, ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que bon, quand on parle de photographie, c'est un des métiers qui fait le plus rêver aujourd'hui. Parce que derrière le photographe, on a l'impression d'avoir quelqu'un de très libre, qui se balade avec son appareil photo un peu partout, et puis qui fait un métier plutôt intéressant et plutôt facile. Et souvent, beaucoup de gens se mettent la barrière en se disant « Oui, mais photographe, je peux pas, c'est pas pour moi, j'ai pas fait d'école. » Et donc, en fait, on peut très bien s'en sortir, devenir photographe, sans être passé par de longues études dans la photographie.
Tout à fait, hein. Je pense que là c'est un des métiers où oui, c'est bien possible. Parce qu'après, on peut apprendre beaucoup, beaucoup de choses, des livres, de la pratique, à regarder, à aider d'autres photographes en tant qu'assistant. Et comme moi, je faisais des photos tout le temps pendant ces voyages, pour moi d'abord. Après, le monde des ONG, c'est assez fermé de l'extérieur. Mais une fois qu'on voilà, on est bien établi, après, il y a un peu de flexibilité et ils sont quand même à la recherche des bonnes images. Hein. C'est un peu comme tout. Et pour eux, c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un sur place. Moi, je faisais aussi de la com. C'était pas que la photo. En même temps, j'interviewais les gens, j'écrivais les rapports. Ça faisait un tout. Mais pour eux, c'était bien d'avoir une personne sur place qui visitait les projets, après qui faisait des photos, du texte. Ils utilisaient ça pour les supports en Suède pour lever les fonds.
Oui, pour la levée de fonds, le fundraising. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une ONG fonctionne souvent comme une entreprise. On a besoin d'être présent, d'être visible, d'être vu. Et on vit dans un monde où l'image a une place très importante. Il faut que l'image soit belle pour donner envie aux gens de soutenir un projet ou d'acheter un produit. Ce qui est aussi le cas du monde des ONG, où il faut faire connaître ses actions et l'image a un rôle primordial. Donc cette aventure-là, tu quittes donc ton entreprise hein, à Londres, Save the Children, pour aller vivre une expérience sur le terrain. Donc tu as sûrement compris ce décalage, le clivage entre ce qui se passe dans les bureaux et la réalité qu'on retrouve sur le terrain, souvent très différente dans le monde des ONG. Tu te retrouves, Rebecca, après à voyager en Asie, pour commencer en tout cas ce travail de fond sur la photo, créer des visuels qui permettront à Save the Children de continuer à lever des fonds. Et après, comment cette expérience continue ou comment est-ce qu'elle s'arrête ?
Alors après, c'est vrai que le monde sur le terrain, c'était pas du tout comme j'avais imaginé avant, à mon bureau à Londres. Et honnêtement, j'étais un peu déçue par comment ça se passe. C'est sûr que quand on est idéaliste, comme moi, c'est difficile après d'accepter que le mode de fonctionnement de ces grandes ONG, il y a beaucoup de problèmes qui vont avec le bien. Il y a le mal qui va avec le bien. Il faut accepter qu'il y a certains qui profitent bien de leur poste, de leur position, qu'on aide certains, mais il y a des milliers derrière qui bénéficient de rien du tout. Enfin, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais à la fin d'un an et demi, j'ai décidé que non, je ne voulais pas continuer. Même si la partie photo me plaisait bien, je ne pouvais pas accepter tout le contexte. En plus, il y avait un petit problème, un gros problème même de corruption dans le bureau à Katmandou, où j'étais basée après Dhaka. Voilà, je suis arrivée au clash avec le mec qui gérait le bureau. Moi, j'ai démissionné et je suis retournée en Angleterre. Et là, il y avait quelques mois, quand je ne savais plus ce que je faisais. Là, je m'étais un peu perdue pendant quelques temps. Et tout ce qui restait à ce moment-là, c'était que la photo m'a vraiment plu. Ça me plaisait et c'était ça le truc de tout ça qui me restait. Et le contact que j'ai pu avoir avec les gens sur le terrain, mais face à face, hein, le contact d'une personne avec une autre. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de faire un stage relativement court, mais dans une école à Londres pour la photo. Et j'ai commencé aussi à aider un photographe. Je suis devenue assistante quelques temps. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des petits contrats en photo. Et d'abord, c'était avec les ONG aussi, mais en Angleterre.
Donc plutôt des visuels tournés vers l'humain, tournés vers l'humanitaire.
Ouais, tout à fait. C'est ça le fil constant pour mon histoire. Don't worry about the things you hate. Every little thing gonna be your eye. Singing, don't worry about the things you have. Every little thing gonna be your eye. You pin me on it. Chalon tati, ya damal so dam, in ye ma sweet song, for melody bell done all. Emiya, this is my message to you.
Sur la notion du voyage. Donc, tu parlais enfant ou ado ou à l'école, en tout cas, tu t'intéressais à la géographie, parce que déjà la géographie te faisait voyager. Ensuite, tu as choisi d'aller sur le terrain, première expérience au Bangladesh pour vivre un choc culturel. Le voyage, c'est un peu la thématique de cette émission qui s'appelle Regard d'ailleurs, qui est un échange de parcours de vie des voyageurs que je rencontre sur mon itinéraire. Et une question que j'aime bien poser, c'est le voyage, qu'est-ce que c'est que pour toi? Comment est-ce que tu le définirais? Qu'est-ce que c'est que voyager?
Bah, voyager, pour moi, c'est découvrir de nouvelles expériences, que ça soit des plantes que je ne connais pas, des plats que je ne connais pas, des personnes que je ne connais pas, l'odeur dans l'air qui est nouveau, c'est, enfin, tout ce qui vient avec un environnement, un milieu qui n'est pas familier. Et je pense que ça aiguise énormément le regard, les sens. On vit vraiment le moment présent avec beaucoup plus d'intensité que l'environnement qui est déjà familier, où on n'observe plus certaines choses parce qu'on a l'habitude de voir ça, donc on ne regarde plus. Et pour moi, depuis toute petite, déjà j'ai grandi quand même. Je suis née dans le sud-est, mais j'ai grandi dans le sud-ouest d'Angleterre, en Cornouailles, au milieu de nulle part. Et là, j'ai grandi dans une petite ferme. Et c'était génial hein, quand j'étais toute petite, mais je regardais toujours les gens qui passaient, qui arrivaient, qui repartaient en voiture. Je me suis dit, il va où lui? Ou il y a un avion qui passe, ça va où? Et ça, c'était même petite, hein, je voulais toujours. Et quand mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens, on ne voyageait pas. Hein. C'était quand j'avais 15-16 ans où j'ai commencé à voyager un peu. Donc avant, non, rien. Mais je rêvais de ça. J'aimais bien lire, j'aimais bien écouter la radio aussi. Et ça me faisait rêver.
Et aujourd'hui, tu en es où avec le voyage?
Là où j'en suis, là, ça fait quand même 10 ans que je suis en France. Je vis près de Nice, à Vence. Déjà, ça fait aussi comme un petit voyage. Donc, les voyages de longue distance, je fais que une fois ou peut-être deux dans l'année. J'aime toujours ça. Et même le fait d'être ici en Russie, c'est génial. J'adore. Je passe un très bon moment. Mais voilà, je trouve mes voyages aussi dans la région où je suis.
Ce que je trouve intéressant en t'écoutant, c'est que tu fais partie de ceux qui, à un moment donné, ont choisi de créer leur métier. Tu ne savais pas que tu allais devenir photographe, hein. C'est quelque chose que tu as découvert lors de voyages, lors de ton itinéraire personnel et professionnel. Tu aimais la photo, tu as choisi d'en vivre, et ça marche. On peut vraiment aujourd'hui vivre de sa passion, créer son métier. Ça, c'est quelque chose de très intéressant dans un monde où beaucoup de gens se posent la question sur leur avenir, sur la place qu'on occupe dans sa vie, et sur le sens qu'on donne aussi à sa vie.
Oui, tout à fait. Hein. Je pense que peut-être le plus grand challenge, c'est de décider ce qu'on veut faire. Une fois la décision prise, je pense que si on est prêt à donner tous les moyens et toute sa concentration, à accepter aussi les sacrifices hein, au début, que c'est bien possible. Quand j'ai commencé, je me rappelle, j'avais besoin de sous quand même. Et je faisais quelques mois, j'étais femme de ménage pour une famille privée. Et quand je passais l'aspirateur, j'écoutais en même temps sur mon iPod, j'écoutais les podcasts style comment négocier dans la photographie, les contrats photos, tout ce qui était administration. J'apprenais. Je lisais des livres, je me donnais des exercices, j'avais trouvé un mentor, j'ai regardé les sites web de beaucoup de photographes, j'avais trouvé un site qui me plaisait vraiment, c'était vraiment le style que je voulais faire. Et j'ai pris contact avec ce monsieur et j'ai demandé s'il était prêt à discuter et peut-être devenir un mentor. Et il m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi au début. Je pense que quand on pose vraiment, on se crée l'espace. Et on pose sa volonté, si je peux dire ça. Après, les choses venir quoi, pour rendre possible. Mais il faut juste y aller à 100% et accepter que pendant un an, même plus, je ne sortais pas, je ne faisais pas de shopping. Ma priorité, c'était que la photo et voilà.
Est-ce que tu peux me parler un peu de l'évolution de ton travail photographique? Parce qu'au début, c'était donc sur le terrain, photographier des scènes de vie, des gens dans les pays en développement. Aujourd'hui, tu photographies, tu parlais de chercheurs de truffes, de truffiers, tu les appelais. Donc,
les
comment tout ça?
Les
trufficulteurs. On a ça en France, des trufficulteurs?
Eh oui, bien sûr. Hein. Là, c'est les mecs qui, pendant la saison, ils vont à la truffe avec les chiens.
C'est des chiens, c'est pas des cochons?
Non. Dans le sud-ouest, c'est beaucoup plus des cochons, apparemment. Mais dans le sud-est, il y a quand même une grande quantité de truffes noires qui sont cherchées. C'est avec les chiens. Voilà.
Petit à petit, en fait, tu t'es créé ton réseau et tu as réussi à trouver de quoi vivre de la photographie.
Oui, tout à fait. Hein. Ça a mis du temps. C'est progressif. Je suis quelqu'un de très patiente et aussi très têtue, déterminée. Et c'est sûr que c'était étape par étape, quoi. Au début, je me servais un peu de mes réseaux que j'avais déjà créés dans le monde ONG. Et après, oui, c'était des contrats par-ci, par-là. Et j'ai fait tout pour créer le portfolio d'abord. Et après, présenter le travail. Et c'est comme une boule de neige. Après, si on travaille bien, il y a un contrat qui mène à un autre. Et suite, quoi. Le plus dur, c'était le début, c'est sûr. Parce qu'il faut aussi avoir la foi que... Enfin, crois vraiment que c'est possible.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard. To kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You prove, you might say I'm a dreamer. Someday you'll join us, and the world will live as one.
Imagine no possession.
Rebecca, tu le disais au début de cette émission, donc tu es de nationalité anglaise. Est-ce que le fait de vivre en France et d'être dans cette double culture finalement, donc de parler parfaitement le français mais d'être anglaise, ça ouvre des portes? Est-ce que ça crée une différence? Comment est-ce que tu vis, toi, ta vie en France?
Oui, ça ouvre beaucoup de portes, bien sûr, parce qu'on a accès à deux cultures, deux pays. C'est marrant comme au fur et à mesure du temps... C'est pas que je me sens plus anglaise, je suis anglaise. Hein. Quand je retourne en Angleterre, je vois les Anglais, la culture anglaise, le pays, avec un peu de recul. Et même avec l'œil, limite, la voyageuse. Je vois de plus de loin ma propre culture. Ça me fait drôle hein, de ressentir ça. Et même la langue. Parfois, quand je parle en anglais, il y a des mots en français qui m'arrivent plus vite parfois que les mots en anglais. Les gens en Angleterre, ils le sentent, hein, je pense. Soit des amis ou voilà, d'autres connaissances. Mais en même temps, je ne suis pas française et je ne serai jamais française. Et on me voit tout de suite que j'ai un accent. Donc, quelque part, c'est comme si je n'appartiens plus à une de ces deux cultures pleinement. Il y a des avantages de ça. Mais en même temps, il y a une liberté que je sens, que je suis libre à, voilà, à faire ce qui me convient le mieux, à être moi-même sans sentir les exigences, si je peux dire, d'une culture où voilà, je suis libre de...
Et peut-être plus de tolérance aussi par rapport à toi, parce qu'on se dit, eh ben, c'est pas grave, elle est anglaise.
Tout à fait, ouais, tout à fait. Hein. Et je trouve que dans le travail, dans les reportages en France aussi, ça me... Comme par exemple avec les trufficulteurs, si l'anglaise ne sait pas que c'est pas les cochons, c'est les chiens, c'est parce qu'elle est anglaise. On est très patient avec moi et ça, c'est bien, ça m'aide.
Qu'est-ce qui fait que tu choisis de rester en France ou peut-être pas hein? Peut-être que tu souhaites rentrer en Angleterre ou même aller vivre ailleurs?
Je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas trop envie de rentrer en Angleterre. Surtout depuis le Brexit. Hein. Aucune envie. Pour l'instant, je suis bien où je suis en France, mais je pense que je vais bouger encore. Hein. Le monde, il est grand quand même. Hein. Ça ne se limite pas à la ville où j'habite en ce moment. Mais comme pour l'instant, je n'ai pas de raison spécifique pour déménager, je ne sais pas. Ça viendra quand ça viendra. Hein. Je ne me projette pas trop dans l'avenir. Là.
Rebecca, je ne sais pas ton nom de famille. Comment est-ce qu'on fait pour aller voir ton travail photographique?
Alors, c'est Marshall, rebecca-marshall.com. Et là, il y a mon portfolio, le travail que je fais et le blog qui raconte les petites histoires des shootings que je fais assez régulièrement.
Ok, donc tu prends le temps aussi de mettre ça en ligne?
Je mets un article en ligne par mois. Ça met un jour ou deux pour écrire, pour préparer les photos à chaque fois.
Ça aussi, c'est une des réalités de la profession photographe qu'on ne voit pas forcément. Il ne s'agit pas que d'aller faire des photos. Il s'agit aussi de faire de l'editing, de faire du marketing, hein, se faire connaître, créer son réseau, faire la relation clientèle. C'est tout un univers qu'on ne voit pas, mais qui est bien présent et qui est chronophage.
Tout à fait, ouais. C'est, oui. Il faut beaucoup de différentes compétences. Et au début, il fallait que j'apprenne tout ça, hein, de faire le site web, le côté marketing, comme j'ai dit tout à l'heure, la négociation sur les contrats, apprendre la loi, oui, le editing après, préparer les images pour mes deuxièmes ventes après, pour mon agence. Je pense que sur une semaine, si j'ai deux jours où je sors faire les photos, c'est beaucoup pour une semaine. En général, c'est peut-être en moyenne un jour et demi par semaine. Et le reste du temps, oui, c'est toutes les activités qui sont autour, soit dans l'editing ou voilà, l'administration, le marketing.
Et pour terminer, donc, je t'ai rencontré ici en Russie, à Ouglitch. Donc, comme moi, tu y es passé une semaine. Hein, tu vas rentrer aussi bientôt chez toi en France. Qu'est-ce qui te reste de ces cinq jours à Ouglitch en Russie? Qu'est-ce que tu auras envie de partager comme adjectif? Qu'est-ce qui t'a marqué?
Ça, c'est la question la plus difficile, hein, je pense. J'étais en train de réfléchir à ça quand j'arrivais. Je pense que quand on voyage, là, ici, je ne suis jamais venue en Russie. C'est la première fois que je suis là. Et ma seule impression donc, de la Russie, c'est cette petite ville qui reste quand même. Hein. C'est une petite ville hein, au milieu de la forêt. Et on a beaucoup d'impressions tout de suite. Quand on découvre un endroit, c'est aussi par les choses que... on ne voit pas. C'était seulement ce matin, je me suis dit, j'ai pas vu de moto de scooter. Là, le fait que les supermarchés ici, il n'y a pas de vitrine. Il y a beaucoup de commerces qui sont, c'est juste un mur avec une porte. Et sans parler russe, on n'a aucune idée de ce qui se passe, mais ça peut être bien un supermarché. Je me suis levée, j'avais raté le petit déjeuner hier, et j'ai demandé à l'interprète si on pouvait s'arrêter à une boulangerie. Elle m'a dit, mais il n'y en a pas. Je dis, mais vous achetez le pain où? Elle a dit, au supermarché. Donc on est allé au supermarché à 9h30 du matin. Mais il n'y avait pas de pain. pas de brioche, pas de, enfin rien du tout. Ah non, pas avant 10h. C'est livré à 10h. J'ai dit, mais comment les gens ils font pour le petit-déj? Mais apparemment, ils ne mangent pas ça. Pour le petit-déj, c'est plutôt le porridge. Ce genre de choses.
Okay. Merci, Rebecca.
Regarde ailleurs, l'émission radio sur le chemin des découvertes.